Make sure my levels are at around 8.
CKUT 90.3 FM.
Blah, blah, blah.
It's kind of a tongue twister.
Am I popping my peas?
CKUT 90.3 FM.
Well, start again.
Oh, should I do that? Okay.
I need a script.
CKUT 90.3 FM.
So, you want me to go through it again and actually say that?
This sounds so repetitive.
See, now I can't do it. Once more, okay.
CKUT 90.3 FM.
Oh, I'm sorry.
Wait, wait, do you want me to say hello?
I'll have to do another one.
Yeah, maybe one last one.
Radio CKUT 90.3 FM.
Are you recording?
You are?
Oh. Can you press stop?
Ça va? Super. Pas pire pantoute. Numéro 1. Ça roule? Bien, merci. C'est cool. Comme sur des roulettes. Ben correct. Quand on se fait demander comment ça va, on dit souvent que tout va bien, même si c'est pas toujours le cas. Si ça ne va pas, parlez-en. Pour trouver de l'aide, appelez InfoSocial 811. Parce que parler, c'est commencer à aller mieux. Un message du gouvernement du Québec.
Bienvenue à votre émission d'art et culture préférée, Café, au 90.3 CKUT. Ce soir, on est avec Ève Laurence et Marie-Pierre. On va faire une émission littéraire. On va commencer avec le recueil de textes Mythologie québécoise, qui va continuer ensuite avec le dernier livre de Larry Tremblay, Tableau final de l'amour. Et on va se terminer avec une belle discussion autour de l'autofiction « Là où je me terre » de Caroline Dawson. Mais avant de se lancer dans les livres, on va y aller en musique. Marie, qu'est-ce qu'on écoute?
On va écouter la chanson « Time Escaping » de Big Thief, qui est un groupe américain folk rock. C'est une pièce qui est tirée de leur nouvel album qui est à paraître très prochainement, donc le 11 février, ça sort. Un album qui s'intitule « Dragon New Warm Mountain, I Believe in You ». Incroyable le titre. C'est une pièce... une pièce qui est un peu plus rythmique, plus percussive que ce qu'ils nous ont habitués jusqu'à présent. Et si les restrictions sanitaires nous le permettent, Big Thief vient à Montréal le 18 avril 2022. Donc, je souhaite fortement que ce spectacle ne soit pas annulé. Donc, on écoute ça!
Waves, a rush of energy.
C'est maintenant le temps de prendre votre rendez-vous pour votre dose de rappel contre la COVID-19. Allez sur québec.ca/vaccin-COVID pour suivre la séquence de vaccination prévue dans votre région et prendre votre rendez-vous en ligne. Pour bien vous protéger contre la COVID-19 et ses variants, vous devez recevoir la dose de rappel et continuer de respecter la distanciation, de porter le masque et de laver vos mains. La dose de rappel, un moyen de nous protéger plus longtemps. Un message du gouvernement du Québec.
On vient d'écouter Time Escaping de Big Thief et je passe la parole à Anthony qui va nous parler de mythologie québécoise.
Oui, je vais vous parler de mythologie québécoise et même du recueil qui s'appelle Mythologie québécoise, dirigé par une certaine Sarah-Louise Pelletier-Morin. C'est un recueil qui est sorti en novembre 2021 aux éditions Nota Bene. Donc, la directrice du recueil a demandé à 36 personnes d'écrire un petit texte sur une mythologie québécoise, au sens large. Les textes vont de tout bord, tout côté. Plus précisément, il est question de s'inspirer des fameuses mythologies de Roland Barthes. C'est ce philosophe-là français qui a publié en 1957 un recueil dans lequel chaque texte décortique des mythes contemporains, donc des mythes que Barthes voyait autour de lui en France. Dans les textes les plus connus, on retrouve entre autres celui de la lutte, plutôt le catch, c'est les Français appellent ça catch. Ou encore celui du beefsteak et des frites. On peut s'imaginer le mythe du sang, tu coupes la viande, la virilité. Donc, c'est vraiment une question de voir les signes dans la société, les sens communs, et de les dévoiler, de les décortiquer. Donc, mais qu'est-ce qu'un mythe pour Barthes? On va faire un peu de littérature, de philosophie, parce que je vais le citer. Le mythe est un système de communication. C'est un message. C'est un mode de signification. C'est une forme. C'est une parole qui est justiciable d'un discours. En gros, c'est quoi? C'est les histoires qu'on se raconte. Qu'on se raconte tellement qu'on finit par ne plus voir que ce sont des histoires. Ça devient à un certain point la réalité, même si c'est grâce au discours, c'est le fait qu'on se raconte des histoires, que ça devient vrai, que ça devient avec une puissance dans la réalité. Donc, avec ces définitions-là, on comprend facilement que chaque société possède ses propres mythes, y compris le Québec. Donc, maintenant que j'ai fait mon petit cours de mythologie 101, pour revenir à notre recueil intitulé « Mythologie québécoise », on y retrouve des textes qui dévoilent plusieurs types de mythes québécois. Comme par exemple le fameux « Déluge du Saguenay » écrit par Frédéric Lavoie, ou encore le « Journaliste ami » par Alain Deneau, « Metallica » par Ralph Alawani, ça me fait penser au t-shirt « Mes taxes, mes impôts, Metallica », vraie ville de Québec. Ou encore la fameuse cabane à sucre, écrite par Jérémy McEwen. Mais celui que j'ai préféré, le texte que j'ai préféré, c'est sans hésiter le premier, qui c'est sur la ceinture fléchée, écrit par Biz, le membre de Le Colocas, c'est un écrivain de ce temps-ci. Donc, ce que j'ai particulièrement aimé de ce texte-là sur le mythe de la ceinture fléchée, c'est un peu comme le renversement de mes attentes. Tu sais, je sais très bien que Biz est un auteur particulièrement ancré dans le Québec, grand connaisseur de notre histoire, conséquemment fervent défenseur du fait français, de l'indépendance politique. On voit le personnage. Donc, tout ça m'amenait à penser qu'il allait nous parler de la puissance mythologique positive de la ceinture fléchée. On est tissé serré, les mélanges s'entremêlent, on met ça autour de nous. On voit l'image, je sais que tout le monde voit ce que je veux dire. Mais ce qui est arrivé, c'est exactement le contraire. Je m'explique. Donc, le texte commence par une belle généalogie de la ceinture, fait une histoire de la ceinture. L'histoire de la ceinture en tant que telle, les deux pages qui sont dédiées à ça, c'est vraiment intéressant. J'en ai appris beaucoup. Mais là, dès que ces deux petites pages-là historiques sont faites, bang, renversement. En fait, le mythe que Biz nous montre, c'est la quétanisation, la folklorisation, à un certain point, le dénigrement qu'on a par rapport à la ceinture fléchée. C'est vieillot, c'est quétaine, c'est conservateur, ça représente, je sais pas, les Québécois de souche. Sauf que là, c'est là que ça devient vraiment intéressant parce qu'il nous parle finalement de la fabrication en Chine, de la ceinture fléchée, qui se vend en rabais dans le Vieux-Québec aux touristes chinois, puis à quel point que c'est ridicule. Puis là, son texte se transforme toujours encore plus en dévoilement un peu de la dévalorisation ou de la construction de tout le ridicule qui entoure la ceinture fléchée. Donc, j'en suis finalement sorti avec deux idées sur la symbolique de la ceinture fléchée. D'abord, une générale. Les mythes des peuples ne sont pas nécessairement positifs ou chauvins. C'est une manière de nous remonter, mais potentiellement le contraire des fois. Péjoratif, écrasant, démoralisateur. Donc ça, c'est l'idée plus générale. Mais ensuite, je me suis dit plus précisément qu'au Québec, on a quand même plusieurs mythes sous forme négative. Les perdants, les opprimés, les colonisés, la ceinture fléchée ridicule, et ainsi de suite. Donc, tout ça pour dire que je conseille vraiment ce recueil-là, qu'on peut laisser sur le bord de notre lit, puis lire un texte de temps en temps.
Ça me fait penser, Anthony, la fin de semaine dernière, dans Le Devoir, il y avait Gérard Bouchard qui parlait des patriotes. Puis ça me fait penser un petit peu à ça, comment le drapeau des patriotes est devenu aussi assez, ben, quétainisé, comme tu dis.
Oui, ouais, c'est tough à dire, hein?
Oui. Puis, ben, c'est ça, lui, ben, il dit qu'on devrait plus valoriser cette histoire-là, puis tout ça, mais c'est vraiment intéressant. Puis ça fait réfléchir à c'est quoi les mythes, comme les mythes qu'on a rencontrés au fil de notre vie. Moi, ça me rappelle la première fois que je suis allée sur la Côte-Nord. On est rentré dans une microbrasserie. Puis le serveur, on voit sur le menu, là, il y a un dessert spécial. Puis là, il dit, ah, ça, c'est un dessert d'ici. Puis c'est toute une histoire. Ça s'appelle le Tigus, mais... c'est bien connu sous le nom de Joe Louis. C'est Vachon, ils nous ont volé, c'est notre recette. Mais en tout cas, bref, ces petits gus-là, on peut en acheter. Ils en produisent en une certaine quantité là, pendant l'année, puis on peut trouver ça là, dans les dépanneurs, dans les endroits...
Donc toi, tu as déjà mangé un petit gus?
J'en ai mangé plusieurs fois. Je te dirais que ce qui est le plus intéressant dans toute cette histoire-là, ma partenaire et moi, on en a comme fait notre propre mythologie puis notre propre obsession. Fait qu'on peut pas passer proche de la Côte-Nord sans faire un détour par Forestville pour aller chercher des tigus. Puis c'est le fait que ça soit un mythe qui rend ce gâteau-là bon, parce que finalement... Ben, il y en a des meilleurs quand même, mais bref, c'est quand même très intéressant, là, juste le fait qu'ils réussi à créer un mythe autour d'un gâteau qui font que ça crée des obsessions pour des gens comme nous.
Je me demandais aussi la différence entre le tigus et la ceinture fléchée, si c'est pas juste parce que il y a un mythe qui est vivant, puis il y en a un autre qui est un peu peut-être vide ou un peu mort. D'une certaine façon, la ceinture fléchée, même moi, je pense que les dernières fois que j'ai entendu parler de ceinture fléchée, c'est pour dire que les artisans qui en font, le savoir-faire est en train de se perdre, finalement. Il n'y a plus personne qui sait comment en faire, donc on fait faire ça en Chine. Alors que le tigus, visiblement, le mythe lui-même, les histoires sont encore comme racontées autour de ça, comme quelque chose de vivant. Puis cette quétanisation, moi, ça me fait aussi penser un peu au carnaval de Québec, tu sais, est-ce que c'est pas finalement une coquille vide pour les touristes, tu sais, puis que c'est plus vraiment investi par la population locale, finalement? C'est une question que je me pose en vous écoutant.
Même Biz dit, depuis les années 1950, la ceinture fléchée est indissociable du gros bide du bonhomme carnaval. Donc, t'as visé juste.
C'est vrai. Mais qui sait, hein, peut-être que la ceinture fléchée va revenir à la mode.
Parce qu'au final, c'est cool, là. C'est un foulard fait maison avec des belles couleurs flamboyantes. Là. C'est pas si mal. Là.
Ouais, faudrait peut-être...
Pourrait peut-être demander à un designer québécois d'en faire une collection spéciale, ceinture fléchée, quelque chose comme ça. Ça revient un accessoire mode.
Ouais, bon, ben, je vois que c'est le fun parce que ça vous donne le même goût que moi de penser les mythologies québécoises. Puis je pense que c'est un des bels effets du recueil. C'est, après ça, nous-mêmes, individuellement, on pense à nos mythes de société ou même personnels.
Ouais.
Donc, je conseille la mythologie québécoise, Nota Bene, sous la direction de Sarah-Louise Pelletier-Morin. Et on y va en musique. Avant le prochain livre. Donc, je vous propose une chanson de J.P. Lepade Tremblay. Mais qui est cet homme? C'est le chanteur du groupe Québec Redneck Bluegrass Project. Donc, il a sorti un album le 19 novembre 2021. Le titre de l'album, Entre parenthèses, l'onomatopée d'un crachat. Donc, c'est ça le titre de l'album, là. R-I-I-K-T-H-F-F-U. C'est quand même bien vu. Et le titre, c'est Maladie mentale.
Strip, bang, trop, c'est étrange, c'est louche. Ça cache quelque chose, Yanguille sous souche. Tu tripes ben trop chose, tu dois cacher de quoi. Y'a de la bonne rose dans ton portée de foie. Ça coule pompon, t'en beurre trop épais. C'est sûr, ça tourne pas rond à force que t'en mets. Tu me prends-tu pour un cave, fais pas ton hypocrite. Ça m'énerve, tu devrais être sur le bad trip. Comme la plupart ici. J'ai-tu besoin d'un médecin pour me stiquer un diagnostic de TDA? Je m'auto-prescris du Ritalin que je mixe avec du Concerto. Je t'en fais un teflon, c'est bien certain. Les informations ne collent pas dans ma petite tête de musicien. Y'a sûrement trop plein de corps gros. Je me rappelle plus de rien, c'est pas chic. J'ai une petite tête de pois chiche. J'ai sûrement une couche en adhésif. Une crise de place pour les souvenirs. La boîte à mal apprend plus de mal. J'ai le cérébral en tefal. J'suis un peu poilon, c'est pas une surprise. Au moins j'étais conçu pour faire cuire du mac and cheese. Parce que moi,
j'pète les bagues tout le temps.
Qui détonne, rien d'étonnant. J'm'arrache les cheveux, j'me ronge les ongles au sang. Ma prescription, c'est de la bombe. Plus besoin de colle ni de micro-ondes. J'me fonds maintenant mieux dans la foule. Je fit enfin dans le moule. Me v'là finalement normal grâce à mes maladies mentales. Tout le monde se crisse en bas du pont. Ben moi je me crisse en bas du pont. Ça fait de moi donc de la, de moi donc de la médication. Que je l'échappe, c'est d'app à coups de pinote dans le casque. Que je me gèle fonctionnel sous le bras de la carte soleil. Mes médicaments, témoi, mes médicaments, témoi donc. Notre patte cherche la rédemption. Ce qu'il est le patte de prescription. Pour tout vivre, égal, sans soubresaut, sans basé, sans eau, sans up and down, tu viendras me chercher dans Lost and Found. Parce que moi,
j'pète les blancs à tout le monde.
Rien qui détonne, rien d'étonnant. J'm'arrache les cheveux, j'me ronge les ongles au sang. Ma prescription, c'est de la bombe. Plus besoin de colle ni de micro-ondes. J'me fonds maintenant mieux dans la foule. Je fit enfin dans le moule. Me v'là finalement normal grâce à mes maladies mentales. Ah, c'est bien sûr, j'suis dans ma bulle. Faut que j'm'accoutume à mes polules. Le monde le fasse bien correct. Faut sortir un livre de recettes où la pharmacologie serait en vedette. Pouvoir enfin m'enlever mon stress. Cuisine fusion pour les dépresses. Ça se vendrait comme des petits pains de fesses. Mais surtout, va pas dans le bois, prends pas de vacances. Surtout pas, faudrait pas que j'aille briquer une roue. Faut que je reste dedans jusqu'au bout. Ben à côté, brou dans le toupette, dans le jus jusqu'au temps que je pète. Mais j'aurais pas lâché la patate, j'aurais pas lâché le morceau. Puis on se souviendra peut-être de moi, pas comme d'un simple numéro. Rien d'étonnant, je m'arrache les cheveux, je me ronge les ongles au sang. Ma prescription, c'est de la bombe. Plus besoin de colle ni de micro-ondes. Je fonds maintenant mieux dans la foule. Je fit enfin dans le moule. Me v'là finalement normal. Vive mes maladies mentales.
On écoutait JP le pape Tremblay avec sa chanson Maladie mentale. Merci Antoine.
C'est vraiment bon. En fait, l'album au complet est excellent. Je vous le conseille.
J'aime beaucoup comment tu fais le nomadopé.
Ben,
tu le fais très bien.
C'est cracher à radio.
Ouais, ben oui, c'est vrai ça. C'est vraiment, tu peux te le permettre à café. Alors, prochain livre dans notre café littéraire, c'est Le tableau final de l'amour. Écrit par Larry Tremblay et paru aux éditions La Peuplade en août 2021. C'est un livre qui a fait beaucoup parler de lui quand même dans les médias. J'ai lu beaucoup de bonnes critiques, ce qui m'a donné envie de le lire. Anto aussi, je t'ai convaincue de te prêter au jeu et de réfléchir avec moi à ce livre-là. Donc, c'est inspiré de la vie et de la biographie du peintre Francis Bacon, né en 1909 et mort en 1992. Il est né en Irlande et a vécu une bonne partie de sa vie à Londres, bien qu'il a vécu également à Paris. L'artiste, ben, on le situe dans les périodes et les mouvements de l'expressionnisme, du surréalisme et du cubisme. Il a été influencé très jeune par Picasso, dont il a rencontré l'étoile dans la jeune vingtaine. Et c'est un des rares artistes, puis on le voit dans le livre, à avoir vécu sa notoriété, à avoir vécu sa richesse aussi. D'habitude, la vie des artistes est une vie de pauvreté. Puis là, ben, c'est complètement le contraire. Il boit du champagne à tous les jours.
Le plus grand peintre vivant de notre époque. Ça revient souvent dans le livre.
Oui. C'est vraiment impressionnant. Et d'autant plus que ses toiles expriment beaucoup de noirceur. Expriment la douleur, l'horreur, la souffrance, la laideur. Son œuvre est complètement habité par la mort. Une de ses citations célèbres, c'est « Nous sommes tous des carcasses en puissance ». Et ça représente assez bien son art et son point de vue sur le monde aussi. Je vous dirais, avant d'aller lire le livre, allez regarder, si vous ne connaissez pas le peintre, là, allez regarder un peu ce qu'il a peint, là, ça va vous donner une bonne idée avant de vous plonger dans le livre. Bacon va vraiment vivre des obsessions sur plusieurs sujets qu'il va reproduire et reproduire et reproduire. Une de ses toiles les plus notables, qui est également ma préférée, je pense, de ce que j'ai vu, s'intitule « Études sur le portrait du pape Innocent X » d'après Velázquez. C'est assez précis. On va la publier sur nos réseaux sociaux, vous irez voir ça sur le café Sécurité 93 FM. Cette toile-là, c'est une de 45 variantes sur le sujet du pape Innocent X que l'artiste a peint. Fait que ça vous donne une idée de ses obsessions. Et une autre de ses obsessions, ben, c'est son amant George Dyer, qui va être son modèle pendant des années et le fruit de plusieurs dizaines de portraits. J'ai pas réussi à trouver le nombre précis. Beaucoup de portraits. Larry Tremblay, pour sa part, ben, l'auteur, c'est un dramaturge, un metteur en scène extrêmement prolifique, un romancier, poète, écrivain né à Chicoutimi. Il m'a accroché rapidement, Larry Tremblay, dès le 2012-2013, avec deux livres qu'il avait publiés, Le Christ obèse et L'Orangerie, aussi assez connu comme bouquin. Je trouve vraiment impressionnante la diversité de ses sujets. Vraiment, là, chacun de ses livres traite de sujets différents et son attitude à toujours les traiter avec minutie, avec justesse. J'ai l'impression qu'il s'attarde beaucoup, il se donne des objectifs d'écriture puis il s'attarde à les réaliser. Et c'est un auteur que j'aime vraiment beaucoup. Cette fois-ci, dans le tableau final de l'amour, Larry Tremblay s'est interrogé, entre autres, sur l'histoire d'amour très tragique que Francis Bacon a vécu avec George Dyer, qui s'est terminé abruptement par le suicide de Dyer. C'est comme une fiction biographique qui expose cet amour complexe, mais aussi la vie très agitée de Francis Bacon, ses rejets, ses souffrances, ses expériences. Ça parle d'agression sexuelle, d'homophobie, de travail du sexe, d'alcoolisme, de dépression, mais aussi de son succès, de sa notoriété et le deuil.
Toute une vie,
aussi,
donc, toute une vie qu'il a eu Francis Bacon.
ouais, vraiment. Hein? Et puis c'est différent aussi de lire. C'est pas comme lire une biographie là. On est vraiment dans. On voit que c'est de la fiction. On voit aussi qu'il y a un travail littéraire qui est fait, qu'il y a un travail de forme là qui est vraiment bien accompli. Et puis, personnellement, là où j'ai trouvé que le roman était d'un si grand intérêt, c'est dans sa capacité à nous plonger dans la pensée de l'artiste, à nous faire voir à travers ses yeux, à nous faire voir le monde, à nous faire voir les choses qu'il compose, mais à nous faire voir la laideur du monde comme Francis Bacon la voyait. Larry Tremblay a fait ce travail-là complexe, d'être, de se mettre dans la peau, mais nous permettre aussi de nous mettre dans sa peau à Francis Bacon. et il le fait de manière assez convaincante, écrit à la première personne. On est le narrateur, on est Francis Bacon. Puis ça nous permet un peu de mieux comprendre son œuvre.
Mais là, pour bien comprendre, est-ce qu'on se permet une petite lecture pour faire vivre l'expérience totale?
Oui, tout à fait.
Donc là, on est dans un paragraphe où précisément Francis Bacon va peindre son amant. Et c'est un petit paragraphe où ça met en scène, c'est la peinture. J'y vais. Te peindre, c'était aussi plonger mes doigts dans le gris de mon cerveau. Étaler ma main gluante sur la toile consentante, toile junkie en manque de visage, quêtant sa perfusion de couleurs. Mais j'étais rarement satisfait. La toile avait toujours trop soif. Elle buvait, ne séchait pas devant le feu de mon regard. Elle méritait l'assassinat et je passais trop souvent à l'acte.
C'est très, très matériel et dans le désir aussi comme écriture. Je trouve ça vraiment intéressant de voir aussi le regard de l'écrivain sur sa, par rapport à la toile d'un point de vue vraiment plus matériel. Je ne sais pas, on dirait que quand je réfléchis à quelqu'un qui fait une toile, je le pense de façon un peu immatérielle, pas en lien avec les couleurs, en lien avec la matière, mais là, c'est vraiment ça qui ressort.
En lisant, j'avais l'impression que quand il peignait.
Ouais.
On voyait une main. C'était comme à pleine main. Il donnait des coups, puis c'était vraiment violent. Là. J'avais pas l'impression qu'il était tout délicat en tenant sa petite fourchette là, manger avec le petit doigt. Là. À pleine main quand il peinture, j'ai l'impression.
Oui, puis tu te souviens, Anthony, quand il décrit aussi l'état de son atelier de travail qui semble.
L'odeur. J'avais le nez qui me bloquait juste en lisant. Ça avait de l'air dégueulasse.
Oui. Oui, puis même, tu sais, aussi dans le paradoxe de, tu sais, sa vie très riche, de l'élite bourgeoise, mais non, là, dans son atelier, il faut que ça reste crasse, il faut que ça soit vraiment le plus laid possible, le plus désagréable possible. C'est là qu'il tire son inspiration.
C'est en Algérie qu'il allait ou au Maroc, je ne sais pas. C'est, en tout cas, il va dans la Méditerranée, puis là, c'est beau, c'est floral, incapable de peindre. Il retourne dans sa merde, puis ouais. Là, c'est là qu'il se gâte.
Oui, c'est vrai. Puis c'est vrai ce que tu dis, Marie-Pierre. J'ai l'impression que Larry Tremblay a dû faire un travail de très long de contemplation des œuvres pour essayer, tu sais, de vraiment aller tirer
la moelle. La moelle de peinture.
La moelle des œuvres. C'est vrai, c'est vrai. Donc, un roman très déchirant aussi et très dérangeant. Oui, il y a une histoire d'amour là, tout au long, mais c'est une histoire d'amour vécue comme un tumulte, comme un désordre. Ça nous fait sentir absolument impuissant et impuissant devant tout ça. On a comme une envie poignante tout au long du livre de comme sauver un peu cet amour-là, puis d'une tragédie imminente, là, qu'on sait que ça va venir. Là,
un des sentiments que j'avais en lisant, j'avais l'impression, parce que je viens de dire le mot « moelle », là, mais j'ai l'impression que le peintre profitait de son jeune amant. Là, il prenait toute sa moelle d'énergie, de jeunesse, de vitalité, de muscles, puis là, il salissait à un certain point, genre il rendait laide. Ce sentiment-là, comme d'utilisation par l'amour, c'est vraiment difficile à recevoir des fois dans le livre.
Ouais. C'est pas un bel amour.
Minimalement.
ça faisait vraiment longtemps que j'avais pas lu un livre de fiction qui a pour thématique l'amour et la passion. Vraiment, je sais pas, c'est quand la dernière fois que j'ai lu un livre qui parle de l'amour autant, mais là, c'est vraiment parlé avec... beaucoup de noirceur et de perversité, un peu comme l'étoile de Francis Bacon, finalement, comme la manière qu'il aborde le réel. Un super, super, super bouquin que je vous recommande. Et puis, sur ce, on continue en musique. Allons-y. J'étais absolument excitée cette semaine de voir qu'il y a une nouvelle collaboration qui existe entre deux artistes que j'aime beaucoup. Le projet s'appelle, se prononce Ombigazé. Ça s'écrit Ombigizi, Ombigizi. On va aussi publier ça sur les réseaux sociaux. Vous irez voir ça. C'est une collaboration entre Zone et Status Non Status qui s'appelait autrefois Whoopso. Je vous en ai souvent parlé à l'émission. C'est deux artistes musicaux Anishinaabe qui vont sortir un album très bientôt. Là, ça sort le 10 février prochain. Un album de rock alternatif shoegaze qui va s'appeler Soon Back Together. C'est chez Arts and Crafts. Et là, on va écouter une chanson. Je n'ai pas le titre. La chanson s'appelle...
Roulement de tambour!
Residential Military, pardon. Donc, on écoute ça maintenant, puis on continue après la chanson pour plus de recommandations de lecture.
Venez prêter main forte à la campagne de vaccination contre la COVID-19. Nous recherchons des personnes pour administrer les vaccins, des préposés à l'entretien, des agents administratifs, des préposés à l'accueil et des agents de sécurité. Vous êtes étudiant, retraité, vaccinateur? Faites la différence et contribuez à améliorer la santé de la population en participant à cette opération d'envergure. Informez-vous et manifestez votre intérêt dès maintenant sur jecontribuecovid19.gouv.qc.ca. Un message du gouvernement du Québec.
Bonjour, rebonjour. Vous êtes toujours à l'émission Café sur les ondes de CKUT. On écoutait Ombigazé, la chanson. J'ai encore oublié. Residential Military. Excusez.
Tout le monde ensemble. Residential Military.
Exactement. Et puis, on va poursuivre notre émission en parlant de l'excellent roman ou récit, ou en tout cas, c'est dur de le nommer.
Autofiction.
Autofiction, ben oui. Là où j'aime taire, de Caroline Dawson, paru aux éditions Remue-Ménage en avril 2021. L'histoire, ben, c'est le récit d'une famille chilienne et de sa protagoniste principale, l'autrice elle-même, qui ont fui la dictature de Pinochet en 1986 pour venir s'implanter à Montréal, qui sera leur refuge, leur lieu de leur nouvelle vie. C'est un livre, je crois que c'est un des livres qui m'a le plus plongé dans l'expérience de l'immigration, qui m'a le plus fait comprendre cette expérience-là, l'expérience de l'intégration et du rapport malaisé à l'identité en terre d'accueil. Caroline Dawson nous offre un point de vue qui est très intime et sensible sur sa propre expérience et sur leur nouvelle vie, là, elle et sa famille. Elle aborde une tonne de sujets qui concernent l'expérience de l'immigration. Ça commence au début par la déchirure, le deuil du pays, de son pays, le dernier regard qui est porté sur sa vie d'avant, sur les paysages de son pays qu'ils sont forcés de quitter. Ça traite de la barrière de la langue aussi, mais de son apprentissage de la langue française, comment il est vécu d'un point de vue d'enfant, Anthony, en tant que tuteur de français pour les jeunes, puis il y en a beaucoup qui sont issus de l'immigration. Il y a plein de petits bijoux dans ce livre-là là, qui te feraient sourire. Marie-Pierre, est-ce que tu voudrais nous en lire un petit extrait?
Oui, s'il te plaît.
Certainement. Donc, j'y vais, ça va comme suit. Nous étions 17 enfants de toutes les couleurs. Enfin, toutes les couleurs des gens qu'on appelle les minorités visibles. Pas de blanc dans la classe, mis à part la maîtresse. Il a fallu désapprendre à l'appeler Madame la professeure, comme nous le faisions dans nos pays respectifs. Elle n'avait d'ailleurs pas de nom de famille. Ça devait être quelque chose d'impossible à écrire ou à prononcer correctement, pour la petite réfugiée que j'étais. Quelque chose comme Beaulieu, Ouellette ou Gaudreau. Pour nous, les enfants immigrants de la classe d'accueil de l'école primaire La Visitation, proche du boulevard Henri Bourassa, elle se nommait Madame Thérèse. Madame Thérèse était âgée. Enfin, je le suppose, puisqu'elle était ridée, tirée à quatre épingles et avait la nonchalance de celle qui pratique ce métier depuis 100 ans. Elle ne s'en faisait jamais et en articulant bien, comme il faut, tout en roulant ses airs, nous disait souvent « Vous allez bien finir par apprendre le français. Ce n'est pas si sorcier, vous verrez. » Je répétais « sorcier ». Je traduisais le mot, mais ne saisissais pas le sens de sa phrase. Quel lien avec la sorcellerie? Ça viendrait, la compréhension. En attendant, elle parlait fort et lentement, comme si nous étions des malentendants. J'aimais sa rassurante prestance. Je crois pas m'être fait un copain ou une amie dans la classe de Madame Thérèse. Les yeux apeurés, nous tentions d'apprendre les codes, de passer à travers la journée, de demander en français où sont les toilettes. J'ai perdu mon cache-cou, je m'ennuie de ma mère. Survivre au début de 1987. Pas encore former des amitiés. Appréhender notre nouvel environnement. Je me rappelle la violence du vent de février, suivie de la slush brune du mois de mars. C'est quoi ça? La boue à moitié congelée? Je me souviens d'être transie, des bottes mouillées, des chaussettes humides et des pieds qui puent. Je sais surtout qu'on apprivoise l'hiver en même temps qu'on apprend les mots pour le dire. Neige, poudrerie, pluie verglaçante. C'est-tu qui fait frette? Viendrait plus tard, quand ma famille aurait de l'argent pour déménager dans un appartement assez grand pour nous cinq dans Hochelaga. Pour l'instant, dans notre petit 4,5 mal isolé d'Annecyc, c'était flocon, givre et ours polaire.
Ah, c'est tellement beau, là! J'aurais un million de choses à dire, mais je vais dire des choses, les choses que j'ai pensées qui m'est arrivées juste cette semaine. D'abord, la slush. Les élèves m'ont demandé qu'est-ce qui vient en premier? La slotch dans la rue ou la slotch qu'on boit? Très belle question philosophique.
Oh,
très belle
vrai.
Question philosophique. Ensuite, une autre chose que j'avais le goût de vous dire, que ça me semble tellement vrai, c'est à quel point que les enfants immigrants que je rencontre montrent ou expriment toutes les craques puis les problèmes de la langue qui nous semblent logiques. Les chiffres, c'est tellement illogique, les chiffres en français, là. 14, 80, 18... 4, 20, 10, 8. Pourquoi qu'il y a autant de chiffres dans ce numéro?
C'est vrai.
Il a fallu que je l'apprenne pour voir à quel point qu'on se complique la vie. Puis je pense que ça fait vraiment du bien à n'importe qui. Qu'il y a un autre regard qui te montre les illogismes de ta langue, de ta culture, ainsi de suite.
Oui, on prend ça pour acquis. Là. Nous, on sait pas, on se rend pas compte nécessairement.
Oui, oui. Ouais. Ah, mais là, ça me donne le goût, j'en veux plus.
Ben, l'extrait que tu as lu aborde, effleure un autre sujet qui est central au livre. C'est l'expérience de la pauvreté, le changement de classe sociale, le déclassement, la baisser d'échelle sociale drastiquement dans l'expérience de l'immigration que vont vivre cette famille-là, ne pas être reconnue à sa juste valeur, passer d'enseignant à concierge qui travaille de nuit, qui travaille comme un forcené, qui n'a même plus de temps pour sa famille, se voir forcé pour survivre d'être femme de ménage. Fait que c'est un livre qui amène tellement d'émotions quand on le lit. on ressent beaucoup, beaucoup, beaucoup la colère, d'une certaine manière, là, de l'autrice, t'sais, qui a été témoin de ça, qui l'a vécu, qui a vu ses parents vivre cette expérience-là, ce déclassement-là. Mais j'ai trouvé aussi comme plus loin, mettons plus théoriquement, c'est un livre qui, je crois, peut alimenter la pensée décoloniale ou la pensée féministe décoloniale en lui injectant du vécu, de l'intime, du personnel, en sortant des concepts, mais vraiment en lisant le vécu d'une personne. On lit Caroline Dawson, le cœur serré, on ressent toute sa frustration puis son sentiment d'injustice de voir sa mère torcher des maisons de riches, des bureaux, de plein d'institutions et accepter son sort sans broncher parce que c'est une question de survie. Mm-hmm. Puis ça m'a rappelé Françoise Vergès dans son livre « Le féminisme décolonial ». Elle commence là, dans les premières pages, elle dit « Nettoyer le monde, des milliards de femmes s'en chargent chaque jour inlassablement. » Sans leur travail, des millions d'employés et agents du capital, de l'État, de l'armée, des institutions culturelles, artistiques, scientifiques ne pourraient pas occuper leur bureau, manger dans leur cantine, tenir leurs réunions, prendre leurs décisions dans des espaces propres où corbeilles à papier, tables, chaises, fauteuils, sols, toilettes, restaurants ont été nettoyés et mis à leur disposition. Ce travail indispensable au fonctionnement de toute société est et reste invisible. Ben, oui. Qu'est-ce que ça dit?
Ben la force, à la limite, de cette œuvre-là, c'est de faire voir ce travail invisible-là qui est beaucoup fait par les femmes, là, comme tu le disais, mais aussi fait par les personnes issues de minorités. Là. Et Caroline Dawson est comme un témoin privilégié de ça, puisque même petite, elle allait accompagner ses parents dans les ménages, là, dans la soirée, par exemple, où il nettoyait des bureaux. Hein. On voit ça, sa curiosité pour tout ce qui se trouve dans ce lieu de pouvoir auquel eux appartiennent pas vraiment. Hein. Ils sont là comme des... Ben, ils sont là pour passer après, pour s'assurer que tout marche bien. Puis leur travail est bien fait dans la mesure où ils restent invisibles aussi. Mm-hmm. Ça, c'est vraiment une force de ce roman-là, je trouve.
Ouais, de visibiliser. Puis aussi, ben, c'est un livre qui a eu beaucoup d'écho là, quand même. Il a été beaucoup discuté dans l'espace public depuis sa parution. Puis je pense qu'il y a plus d'une personne là, qui ont peut-être pris connaissance puis qui ont vu finalement à travers les yeux, à travers l'expérience de Caroline Dawson puis sa famille.
Ben, en parlant de personnes qui l'ont lu, Marie-Pierre, toi, tu l'as fait lire au Cégep. C'est quoi les réponses des étudiants puis des étudiantes?
Mais je pense que ça a été une œuvre qui a séduite là, au premier coup. On parlait de la langue tantôt. C'est aussi une œuvre qui s'approprie même la langue familière québécoise. Fait que cette intégration-là de la narratrice, on la sent jusque dans ses mots, dans le choix des mots. Donc ça c'est poétique, c'est bien écrit, mais c'est aussi quand même ancré dans la littérature québécoise. Puis ça, je pense que... Les expressions, on en trouve, des sacres, ça a contribué à leur appréciation aux étudiants et aux étudiantes. Mais sinon, ben, dans le cas de mon groupe à qui j'ai enseigné cette œuvre-là en cours d'été, cet été, ben, la plupart ont connu l'immigration soit de façon plus ou moins proche de leurs parents ou eux-mêmes sont issus d'immigration et ils se sont identifiés aux personnages. En fait, ils ont vu dans les situations que de classe d'accueil, par exemple, dont on parlait tout à l'heure, ben, des situations qu'eux-mêmes ont dû vivre, là, cette forme de déchirement de la culture d'origine puis la culture d'accueil qui est vraiment omniprésent là, chez eux. Ils ont de la misère à se définir uniquement comme Québécois, sûrement. Souvent, il y a plusieurs cultures qui les habitent puis qui occupent différentes parts de leur identité. Puis chez des étudiants qui n'avaient pas connu ça du tout, l'immigration, ça a été quand même un mouvement d'empathie, en fait. Ils ont vraiment senti la difficulté de ce parcours-là d'immigration. Fait que ça a donné lieu à une prise de conscience qui était magnifique, là. Donc, ça a vraiment été un grand succès chez les jeunes de 18 à 20 ans que j'avais dans ma classe.
Ouais. Ah, puis il n'y a pas juste les jeunes de ta classe qui l'ont lu, hein. François Legault aussi a lu ce livre-là. Il en a fait une publication sur les réseaux sociaux, une publication élogieuse, oh ouais. Qui malheureusement n'est plus disponible. Elle a été retirée des réseaux sociaux, elle n'est plus accessible.
Pourquoi, d'après toi? C'est intriguant.
Ben, parce que Caroline Dawson n'a pas nécessairement été tout à fait d'accord non plus à la manière dont François Legault interprète le livre. Puis qu'est-ce qu'il met en relief dans sa critique positive du livre?
Attends, laisse-moi deviner qu'il n'a pas parlé du problème d'argent, de classe sociale et de la difficulté à vivre.
Il a dit que c'est un livre qui est un beau témoignage d'intégration d'une famille qui ne l'a pas eu facile. Puis,
okay.
Il met beaucoup l'accent sur l'intégration, l'hybridation des cultures. C'est beau comment les personnes immigrantes vont intégrer la culture québécoise, cette magnifique culture. Caroline Dawson va répondre à ça. Je pense que la lecture de Legault est idéologique. Il a voulu voir une belle histoire d'immigrants. Et évidemment, c'est un peu fatigant quand on nous brandit, notre famille, en disant « voici comment s'intégrer ». Fait que c'est ça, ça a été un peu mal pris. Mais par contre, ça a donné un réel succès au livre, là. Honnêtement, que le premier ministre en parle comme ça, puis Caroline Dawson l'a remercié pour ça quand même. Puis
une bonne pub, là.
Oui, c'est ça.
Je pense que les gens qui votent pour la CAQ vont peut-être devraient encore plus lire ce livre-là, mais ouais. Je sais pas.
C'est vrai.
Puis si on fait seulement une lecture que c'est une belle histoire d'intégration, visiblement il y a une analyse de roman qu'on a pas faite, parce que ça montre tout le prix que ça coûte de s'intégrer, tu sais, toute la perte aussi ou le déchirement qui vient avec ça. Mm-hmm. Fait que c'est un peu réducteur comme commentaire, monsieur Legault.
Mais c'était sur Twitter, là, sûrement qu'il y avait un maximum de mots.
Non, c'était sur Facebook.
Il aurait pu tout dire.
Il aurait pu tout dire, mais bon. Marie-Pierre, c'est quoi ton chapitre préféré?
Ben, mon chapitre préféré, c'est s'intitule, en fait, Ce soir, l'amour est dans tes yeux. Certains reconnaîtront le titre de la chanson de Martine Sinclair. Il faut dire que la musique occupe une grande part de dans ce roman-là. En fait, la musique qui joue à la radio, surtout, la musique populaire québécoise, mais aussi d'autres musiques qui font écho au sentiment des personnages dans le roman.
Titre à peu près là, de chapitre et un titre de chanson populaire.
Oui, c'est ça, ou faire un lien avec un élément de la culture québécoise, ouais. Souvent un titre de roman, un titre de chanson, de conte même, par exemple.
Oui.
Mais ce chapitre-là, en fait, ce soir, l'amour est dans tes yeux, raconte un party de secondaire chez un inconnu, comme peut-être vous l'avez déjà connu, c'est-à-dire on se rend avec des amis chez quelqu'un qui nous a invités, mais on ne sait pas c'est qui, chez qui on se rend.
Un open house.
C'est ça. Tout de même assez tranquille, là. Les parents sont partis, par contre.
Oui.
Et ça se passe chez un jeune garçon qui s'appelle Beauty, en fait, c'est son surnom. Joueur de hockey, donc assez séduisant. Donc, il y a beaucoup de fébrilité à l'idée de se rendre chez Beauty faire le party. Et quand la jeune Caroline arrive avec son amie, ben elle sent une espèce de malaise en elle qu'elle n'arrive pas à identifier au premier coup. Donc, le party continue et là, Beauty fait son opération de séduction. Mmh. Il séduit véritablement là, la jeune Caroline. Elle s'en trouve un peu éprise. Mais soudain, Caroline réalise pourquoi elle avait un malaise et le vertige lui prend. Et je pense que je devrais vous faire la lecture de ce passage-là où elle réalise pourquoi elle se sent mal dans cette grande maison de banlieue. « Non, est-ce non? » dis-je cette fois en me levant, effaré. « Non, est-ce non? Ça se pouvait pas. J'avais déjà mis les pieds ici, hier. Quand même. Ça devait faire longtemps. Les meubles avaient changé de place, la cuisine avait été refaite, les murs repeints, mais plus j'ai regardé autour, plus je me savais en terre inconnue. Le samovar, le vaisselier en chaîne, le grand escalier qui menait à l'étage. J'en étais maintenant certaine. Je me trouvais dans une fête, comme si de rien n'était, à l'une des adresses où ma mère faisait le ménage, tous les vendredis depuis des années. J'avais déjà vu Beauty lorsque nous étions enfants. Il était le fils unique de la cliente de ma mère. Nous nous étions rencontrés lors d'une journée pédagogique, alors que j'accompagnais ma mère. J'avais pris mon livre du club des baby-sitters et je m'étais assise en face de lui, qui écoutait Musique Plus à la télé. Nous nous étions dit un « allô » maladroit et sommes restés ainsi, lui sur le divan, moi sur la causeuse, inconfortable dans notre silence durant toute l'émission, avant qu'il ne retourne dans sa chambre. Au dernier moment, juste avant de monter les escaliers, si difficile à épousseter, il m'avait longuement regardé et dit « Natalia, c'est ta mère, hein? Tu lui ressembles pas. » Je n'avais pas aimé son verdict à l'époque, puis le ventre noué, j'ai réalisé que le Beauty d'aujourd'hui qui avait choisi un jeudi pour son party, jeudi, parce que ma mère venait faire le ménage le lendemain. Je me suis mise à regarder partout, en silence, avec ses yeux à elle. L'entrée couverte de garnottes, la table en bois et toutes les bouteilles déposées dessus, sans sous-verre. La montagne de vaisselle qui s'accumulait dans l'évier, les tranches de citron partout, le sel sur le plancher, les vitres pleines de traces de doigts. Ce n'était que le début du party et je pouvais déjà compter six sacs de poubelle pleins de déchets à sortir. J'aurais voulu commencer à ramasser, éteindre les maudits cigarios dans les cendriers, les vider pour que ma mère n'ait pas à toucher ces saletés demain. J'aurais voulu tout nettoyer avant qu'une fille trop chaude ne vomisse sa tornade, qu'une bière soit renversée, un verre cassé. J'aurais voulu arrêter la musique.
Wow!
Merci, Marie-Pierre!
Quelle réalisation déchirante de la part de Caroline Dawson. Ça montre aussi où elle, grâce à l'immigration, où elle s'est rendue, tu sais, ses amis ont des grandes maisons un peu riches.
Ouais.
Ça s'est fait au prix de... Tu sais, ses parents ont choisi de déménager pour leur offrir. Là, il y a ça aussi qui est présent dans l'œuvre, comment les parents d'enfants immigrants font une forme de sacrifice en donnant l'espoir aux enfants. Ouais. Sacrifient un peu tout pour leurs enfants.
Leur vie pour la vie de leur enfant.
Oui, exact.
Ouais. L'extrait, je le trouvais excellent parce que je suis déjà allé dans ce party-là. C'était moi là, qui faisais qui coupait le citron. Mais j'aime que ça parle de quelque chose que je connais, mais avec la perspective de Caroline, l'immigrante qui vit une autre expérience. Puis je trouve que c'est exactement ça qui me permet d'encore plus comprendre. Qu'on parte de quelque chose que moi je connais, que je m'associe, pour m'amener, faire comprendre quelque chose d'autre. Je trouve que c'est la meilleure manière de comprendre une autre perspective. C'est qu'il y a un pont entre les deux. Là.
Mmh. Ouais, c'est vrai.
Bien joué.
Très bien joué. Eh bien, merci. Merci d'en avoir discuté avec moi. Puis, je conclurai avec une chanson. J'ai découvert un duo super intéressant. C'est un vieux duo, là, par exemple. Deux icônes italiennes du rock progressif qui s'appellent Joël Fagerman et Jan Hirsen, qui ont sorti en 1978 un album qui s'appelle Racines synthétiques, mais là, qui est fraîchement réédité chez Replica Records en France. Puis ben, j'avais envie de mettre ça parce que j'adore le rock progressif. J'ai vraiment une obsession musicale depuis mon adolescence. Alors on va écouter ça. Ça va être la chanson éponyme Racines synthétiques.
Salut! On vous a parlé de mythologie québécoise, tableau final de l'amour et Là où je me taire de Caroline Dawson. Avant qu'on se quitte, j'aurais envie de savoir quelles sont vos prochaines lectures.
Très bonne question. Moi, j'ai très, très hâte de lire La Vallée des fleurs de Nivia Cornell-Yussen, une autrice inuite du Groenland qui avait écrit Homo sapiens en 2014 chez La Peuplade. Et puis là, un livre dont les critiques sont très élogieuses. Et je reviens là-dessus dans une couple de semaines.
J'ai hâte que tu nous en reparles, moi aussi, ça c'est dans ma liste. Moi, j'ai commencé La mort d'un père de Carl Ove Nosgaard, qui est un auteur norvégien. C'est le premier tome de son autobiographie qui a beaucoup fait jaser. Ça a été très, très, très populaire en Norvège. Donc voilà, je commencerai ça rapidement.
Et comme vous savez, l'auteur Alain Farah a sorti son livre « Mille secrets, mille dangers » qui a de l'air très bon. Mais je ne vais pas lire ce livre-là, mais je vais lire « Pourquoi Bologne? » son livre avant, parce que je l'avais acheté, je ne l'avais pas encore lu, puis là je me suis dit « il faut que je fasse les choses en ordre ». J'étais en train de le terminer, mais suspense, il parle de « Mille secrets, mille dangers » dans « Pourquoi Bologne? » Wow!
Fait que c'est mieux de le lire avant, finalement.
Ben, je pense que j'ai bien fait les choses pour une fois.
Très bien.
OK, on se laisse là-dessus. Merci, Evlo. Merci, Marie. C'était vraiment le fun.
Oui.
Hey, fun. À bientôt.
À bientôt. Quality sounds, tune into CKUT 90.3 on the frequency modulation band radio. www.ckut.ca on the internet. Streaming audio, archive shows, and information. CKUT.
Venez prêter main forte à la campagne de vaccination contre la COVID-19. Nous recherchons des personnes pour administrer les vaccins, des préposés à l'entretien, des agents administratifs, des préposés à l'accueil et des agents de sécurité. Vous êtes étudiant, retraité, vaccinateur? Faites la différence et contribuez à améliorer la santé de la population en participant à cette opération d'envergure. Informez-vous et manifestez votre intérêt dès maintenant sur jecontribuecovid19.gouv.qc.ca. Un message du gouvernement du Québec.
Êtes-vous locataire à Montréal? Avez-vous des questions sur vos droits? Votre comité logement peut vous aider. Pour trouver le comité logement pour votre quartier ou pour plus de ressources, visitez le www.rclalq.qc.ca.
Soy lo que dejaron, soy toda la sobra de lo que se robaron. Un pueblo escondido en la cima, mi piel es de cuero, por eso aguanta cualquier clima. Soy una fábrica de humo, mano de obra campesina para tu consumo. Frente de frío en el medio del verano, el amor en los tiempos del cólera, mi hermano. El sol que nace y el día que muere, con los mejores atardeceres. Soy el desarrollo en carne viva, un discurso político sin saliva. Las caras más bonitas que he conocido, soy la fotografía de un desaparecido, la sangre dentro de tus venas. Soy un pedazo de tierra que vale la pena una canasta con frijoles. Soy Maradona contra Inglaterra anotándote dos goles. Soy lo que sostiene mi bandera, la espina dorsal del planeta en mis cordilleras. Soy lo que me enseñó mi padre, el que no quiere a su patria no quiere a su madre. Soy América Latina, un pueblo sin pierna pero que camina. Oye,
CKUT 90.3. This is listening to Latin America.
estamos de vuelta por su show favorito de cada dos viernes. En esta nueva edición tenemos el placer de anunciar, como todos los años, hay nuevo año, nuevos integrantes de LASA. Carne fresca para darle energía al show. Tenemos a cuatro integrantes nuevos.